à la vie religieuse. Et j'allais dire, c'est assez transversal. Les religions en général ont leur propre rituel et à chaque rituel est attachée une célébration, une fête. Et donc c'est tout à fait pertinent et opportun de nous laisser éclairer avec cette parabole parce que c'est l'occasion de célébrer et de faire mémoire, de remercier, d'être dans cette attitude de gratitude par rapport à l'alliance. C'est un repas de noces. C'est un repas de noces. Eh bien, du coup, c'est cette alliance que nous voulons aussi célébrer et à laquelle le Seigneur nous invite. D'une certaine manière, je trouve, ça parle du sacerdoce. Quand il dit, il envoya ses serviteurs pour faire venir les convives. Nous sommes la religion des médiations. Ce n'est pas le roi lui-même qui s'est déplacé pour inviter à la noce, non, il a envoyé des serviteurs, d'autres personnes qui, en son nom, disent: vous êtes conviés, venez, c'est prêt. Et je trouve que c'est une belle image du prêtre qui est ce serviteur par excellence, et pour nous, serviteurs de Jésus et de Marie, qui portons ce beau nom dans notre communauté, eh bien d'accord, évidemment, ça fait un écho tout à fait particulier. Mais les prêtres, en général, ce sont ces serviteurs qui invitent à l'alliance, qui disent, qui rappellent d'abord qu'il y a une alliance, qu'il y a une communion à laquelle nous sommes invités, qu'il y a une fête à laquelle nous sommes conviés. C'est vrai de chaque dimanche pour l'Eucharistie, la messe dominicale, mais ces Eucharisties, ces messes dominicales sont comme l'anticipation, eh bien évidemment, de cette grande célébration, de cette grande fête vers laquelle nous allons dans la vie éternelle. Donc oui, ça parle du sacerdoce et de se rappeler que par les médiations, Dieu nous appelle. La médiation d'un prêtre, mais ça peut être la médiation d'un ami, d'un parent, d'une personne qui, d'une manière ou d'une autre, a fait signe dans notre vie et nous a dit: attention, tu n'es pas seul, premièrement, tu n'es pas seul, puis ensuite, tu es appelé, convié à la noce, c'est-à-dire tu es appelé. Il n'y a pas de vie sans vocation, il n'y a pas de vocation sans mission. Et ce très beau texte nous le rappelle de façon admirable. Mais évidemment, parfois on prêche dans le désert, c'est le cas des serviteurs de ce roi qui vont, et puis personne dit, ben, tout le monde est très occupé, voilà, tout le monde est très occupé, donc qui va à son commerce, l'autre à son champ, etc. Voilà, le dimanche, c'est fait pour laver sa voiture, c'est fait pour faire les brocantes, les machins, etc. Pas vous, vous êtes admirable. Mais d'autres. Donc c'est intéressant de dire, voilà, il y a d'autres priorités. Et donc, on voit le serviteur. Et c'est intéressant de dire que comment rejoindre ces personnes dont le pape François a parlé, c'est des périphéries, des personnes qui ont d'autres centres d'intérêt, qui ont d'autres. Ils ne sont pas contre. Ils sont pas contre la dimension spirituelle, etc. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas pris conscience qu'ils ont une vie intérieure et qu'ils sont appelés à développer cette vie intérieure. Donc c'est des gens qui font le bien là où ils sont, dans leur famille, dans leur travail, etc. Mais il n'y a pas plus loin qu'une dimension horizontale. Il n'y a pas une verticalité. Il n'y a pas de transcendance dans leur vie. Ils n'ont pas encore découvert. Mais ensuite, donc le prêtre, évidemment, est envoyé aussi à cela, ce qui est peut-être parfois plus difficile, de les rejoindre. Alors c'est tout le rôle des missions d'évangélisation, des personnes qui vont, voilà, à la rencontre sur les places, dans les villes, etc., ou la mission de tous ceux qui frappent à la porte de l'église pour un événement particulier, sans être pratiquants réguliers. C'est très courant dans les paroisses. Donc c'est important de les voir aussi, eux comme invités à la noce. Hein? Ils sont là, ils regardent, et puis bon, voilà. Pendant tout un temps, ils se sont détournés, ils sont allés à leur champ, à leur commerce, et puis un jour, il y a quelque chose qui a fait signe, et ils frappent à la porte. Et puis c'est assez intéressant, cette il dit, ben voilà, il faut, s'ils viennent pas, on va élargir l'invitation. On va élargir l'invitation. Alors, c'est vrai que dans les temps où nous sommes, c'est compliqué d'élargir les invitations, mais il semblerait que ce soit des temps plus favorables. Et donc, du coup, on va élargir l'invitation et aller à la croisée des chemins. Alors, moi, ça m'a inspiré, cette histoire de croisée des chemins, parce qu'au fond, le prêtre est aussi celui qui, quelque part, est à la aide les uns et les autres à passer la croisée des chemins. Dit que dans cette croisée de chemins, dans nos vies, qui parfois où il y a des chemins qui se croisent, où il y a des bifurcations, où il y a des carrefours, on sait très bien, professionnellement, affectivement, spirituellement, on passe d'un côté, on sait pas forcément vers où aller, on sent qu'on a un choix, la croisée des chemins c'est ça, on peut aller à droite, à gauche, etc. Mais en fait, on n'a pas forcément l'indication, et donc les serviteurs sont postés à la croisée des chemins. Et dans nos vies, on sait très bien, il y a des choix comme ça, il y a des chemins qui se proposent, etc. Et c'est intéressant de voir comment le prêtre a ce rôle particulier d'accompagnateur, de présence. Bien, c'est pas lui, vous le savez, qui prend la décision du chemin à parcourir, c'est bien celui qui discerne. Mais il est envoyé là comme pour dire, dans ce discernement, il y a une présence de Dieu. Les serviteurs sont à la croisée des chemins. Ça m'a bien plu, cette expression de croisée des chemins. Et puis, il invite tous les bons et les mauvais. Voilà, il invite les bons et les mauvais. Et puis, tout le monde rentre dans la salle, finalement, de noces, etc. Tout est prêt. C'est tout ça très beau. Si c'est cette insistance du roi, voilà, c'est prêt. La noce, le repas est prêt. Hein, mais voilà, invitez-les à la noce. Il y a comme une urgence. Il y a comme quelque chose qui ne peut attendre. Et puis, ensuite, ils rentrent dans la salle de noces, etc. Et il y a cette question de celui qui n'a pas le vêtement, celui qui n'a pas sans avoir le vêtement de noces, de tunique. Du coup, il y a eu, vous imaginez, multiples interprétations. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement de noces, etc. Le vêtement, dans la Bible, a beaucoup de significations, mais une d'entre elles, c'est la miséricorde. Vous le savez, après le péché originel, Adam et Ève ont été revêtus parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ne se voyaient plus dans la lumière de Dieu, ils ont été revêtus par le Seigneur. Et puis, au fond, le vêtement aussi, ça, vous vous souvenez évidemment la parabole du fils prodigue où quand le père voit arriver le fils en haillons, ça, le revêt d'un vêtement digne pour lui rappeler sa dignité de fils. C'est l'expression de la miséricorde. C'est l'expression de la miséricorde. Et au fond, celui qui n'a pas revêtu ce vêtement, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris conscience que tout est miséricorde, que nous sommes entourés par un amour gratuit du Seigneur, eh bien du coup, le fait d'être dans ce repas de noces fait qu'il... Il est là, mais sans être là vraiment. Parce que ce repas de noces, c'est justement, on fait une alliance. Les noces, c'est l'alliance. Et comment être dans l'alliance si on ne prend pas dans conscience de la miséricorde? Oui, donc c'est une personne qui n'a pas accueilli la miséricorde, qui ne s'est pas laissé revêtir de la miséricorde, qui ne fait pas mémoire de la miséricorde. J'aime bien voir aussi le vêtement comme l'expression de faire mémoire, vous voyez, de faire mémoire comme 25 ans de sacerdoce, on fait mémoire et de la grâce de Dieu, etc. Eh bien, le vêtement nous aide à faire mémoire que nous sommes appelés, mais par grâce, par gratuité totale. Alors, c'est vrai, pour nos mentalités modernes, la chute de la parabole est un peu violente. Jeter le pied, poing lié dans les ténèbres du dehors, etc. En fait, ça, dans un langage biblique, c'est-à-dire, celui qui ne croit pas en la miséricorde, celui qui ne s'est pas laissé revêtir, hein, comme au jour de notre baptême, hein, vous avez tous participé à un baptême, etc., on revêt le vêtement blanc, hein, on revêt ce vêtement blanc, et évidemment la comparaison a été faite à de nombreuses reprises. Mais celui qui ne se laisse pas revêtir, d'une certaine manière, il s'exclut. Et il s'exclut lui-même. Et donc, c'est ce que la Bible traduit. Voilà, jetez-le, pieds poings liés, dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, celui qui ne laisse pas le Seigneur le rejoindre, parfois dans sa misère, dans sa fragilité, quelle place a-t-il ? Il se met, et c'est intéressant de voir, l'autre garda le silence. Ce même convive qui n'a pas la tenue de noces ne parle pas. Et ne parle pas, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas, il ne dit pas qui il est. Il garde le silence. Alors que le Seigneur, lui, est parole. Alors, on va demander au Seigneur, je trouve qu'à travers cette parabole qui illustre bien la vocation du sacerdoce, qui illustre bien notre, et de façon plus ample aussi, notre vocation de baptiser, on va demander au Seigneur cette grâce particulière, premièrement, de prendre conscience que nous sommes appelés. Si nous sommes, par exemple, dans cette chapelle, c'est que nous avons été appelés. Ça me paraît absolument clair. D'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes famille ou amis, parce que, tout simplement, vous aviez prévu un week-end scout, parce que vous êtes des personnes de l'entourage de l'abbaye, que vous venez occasionnellement ou régulièrement à nos célébrations, mais vous avez été appelés. Tous ici, nous avons été appelés. Donc, ça peut être intéressant de reprendre conscience que tous nous sommes appelés. Et puis de reprendre conscience que ce n'est pas par nos mérites. Vous imaginez bien, 25 ans de sacerdoce, ça n'a pas été non plus 25 ans de choses extraordinaires, etc. Il y a aussi des fragilités, des blessures, des actes manqués. Eh bien, si on prend conscience, on célèbre la miséricorde de Dieu, le pardon du Seigneur qui nous entoure et qui nous permet d'avancer avec confiance. Et vous voyez, parfois les manques de confiance, c'est précisément ça. C'est parce que on se pense seul et non pas invité avec d'autres. Puis deuxièmement, on se juge à l'aune de nos propres critères, et pour peu que l'on soit perfectionniste, du coup, on ne se donne pas beaucoup de chance, et on a un jugement très dur envers nous-mêmes. Eh bien là, le Seigneur nous dit non, c'est pas ça la vie chrétienne. Ce qu'est la vie chrétienne, c'est tu es appelé, et en même temps tu es sauvé. Tu es sauvé. Évidemment, le prêtre, c'est le ministre du salut, celui qui donne le salut par les sacrements, mais celui lui-même aussi qui est sauvé. Alors, on va demander au Seigneur que nous puissions reprendre conscience de ces choses toutes simples, évidemment, pour que nous puissions être les uns et les autres témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.